questo?
Dans la même direction, de la même façon, la tête haute, les au plus peur, les au plus haut. Marchons, attirons l'attention.
Yeah, yeah, yeah. Welcome, welcome, Radio Zonchaîne.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Comme tous les jeudis, en compagnie de Patrice. Et Sergio à la technique, et aujourd'hui Michel en ma compagnie.
Bonjour.
Et aussi notre grand David Alberola. Et à la fin de cette chanson, nous allons parler de la grève féministe mondiale. C'est la première grève féministe mondiale aujourd'hui. Or, je souhaite à toutes les féministes un grand, grand coucou à toutes. Et aussi à Cacao. Cacao qui fête ses 50 ans hier.
Ouais, Cacao, bisous Cacao.
Un gros bisou à Cacao, qui est notre mascotte, une des mascottes de la radio s'enchaîne. Et je fais aussi un petit coucou à ma chérie Noémie.
Salut,
qui nous
Noémie.
Écoute, qui nous écoute. Que je t'aime tant, je t'aime, je t'aime.
Allez, moi aussi, caca, je t'aime, je t'aime.
Et dans nos locaux, nous avons Anna qui va nous parler, bien sûr, sur la première grève. Des féministes.
Bonjour.
Welcome, welcome, Radio s'enchaîne. Alors bienvenue encore ici à la radio s'enchaîne.
Bonjour tout le monde.
Bonjour
Anna.
Tout le monde.
Bonjour.
Vous êtes en compagnie de Patrice comme tous les jeudis matin de 11h à midi. Je te souhaite la bienvenue Michel.
Bonjour Patrice.
Je te souhaite aussi la bienvenue Sergio qui est à la technique. Et David Alberola qui est ici dans nos studios, je lui fais un grand coucou et à toi aussi Anna, notre invitée d'aujourd'hui.
Salut.
Donc qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui Patrice ?
Alors nous allons parler de la première grève, bon c'est pas une des premières mais c'est la première importante grève féministe au monde. On est bien, c'est bien juste Anna ?
Oui c'est juste.
Je vois que dans les journaux comme c'est une... égalité de la journée internationale du droit des femmes et sera l'occasion de nombreuses actions en Suisse aujourd'hui et dans le monde entier. Et bienvenue Anna.
Merci beaucoup.
Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton vie, ton parcours professionnel ?
Oui, je suis ici à Genève et j'ai fait plusieurs des choses. des activités politiques pendant ma vie et je suis étudiante, alors j'ai eu le temps que peut-être que d'autres personnes n'ont pas. Mais maintenant, après de voir que peut-être la mobilisation n'a pas un effet concret et il y a toujours besoin de critiquer ou d'apprendre des luttes du passé et voir quel est plusieurs inégalités qui sont au monde et qui n'ont pas une visibilité. J'ai pensé avec d'autres personnes que j'ai connues dans Podemos à Genève que nous avons besoin de faire quelque chose qui a un peu plus de contenu que d'impact. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous organisons la première séance de Cineperiferia, qui est un groupe de gens qui veut utiliser le cinéma pour donner la visibilité à un cinéma qui lutte pour les inégalités et qui donne aussi la visibilité à une lutte politique.
Bien.
Bien, et puis tu parlais d'activités politiques, oui. Podemos, et tu es dans d'autres groupes activistes politiques.
Et je viens de Bilbao, qui a une vie très politique.
Politique, ouais, exact.
C'est ça. Et
ça fait combien de temps que tu es à Genève?
Et depuis septembre. Et avant, j'ai vécu à Berlin. Alors, j'étais dans deux vies qui, et aussi à Genève, j'ai vu qu'il y a une vie politique très active. Mm-hmm. Et j'étais dans plusieurs groupes, des groupes féministes, et après aussi des partis politiques anticapitalistes. Et, oui, avec une idée de transformer, mais avoir une forme aussi nouvelle. Et après d'avoir vu les problèmes qu'il peut avoir dans des groupes qui existent déjà, j'ai voulu faire une chose qui mélange l'art avec la politique.
Dans ces cercles de réflexion de cinéma, vous êtes combien? C'est toi toute seule qui organise
Nous sommes quatre. Mais c'est un groupe qui est ouvert à la participation parce que nous parlons aussi beaucoup sur comment organiser la séance. Et la séance, elle, est aussi très souvent ouverte à la participation parce que
il y a un débat à la fin.
Il y a un débat au début peut-être aussi et à la fin. Et nous essayons de faire un débat sur le contenu du film et sur la problématique du film.
Oui.
Et aussi, l'idée, elle est aussi de pouvoir partager les savoirs du cinéma, les techniques du cinéma et l'histoire du cinéma.
Ah, d'accord. Donc, mais t'as étudié quoi de l'art ou t'as étudié Sciences Po? Qu'est-ce que t'as...
J'ai étudié le 3, mais j'essayais d'étudier aussi avec d'autres personnes, un peu d'une façon plus indépendante, le cinéma.
Mais d'où c'est venu cette idée du cinéma et puis de montrer ça à ton appartenance en fait de ton activiste contre les grèves féministes, d'où c'est venu en fait cette idée?
Peut-être parce que le cinéma est aujourd'hui déjà super utilisé pour faire expliquer d'une manière un peu plus claire le problème qu'il y a dans le monde, parce que le cinéma est une techniquement elle donne la possibilité de montrer plusieurs des choses en même temps et elle donne aussi la possibilité aux acteurs et actrices, aux réalisateurs, tous les groupes qui travaillent dans les films à une expérience, mais aussi les personnes qui voient le film vont vivre quelque chose. Et ça a un impact très fort. Et, mais peut-être aussi pour l'expérience que j'ai eue à Berlin, qui est, je crois, qu'une vie en construction. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs idées de création artistique. Et là, j'ai connu une personne qui m'a dit un ami de moi qui s'appelle Dani, et il m'a dit que c'était les moments de faire, d'utiliser le cinéma comme quelque chose qui peut ouvrir un espace commun pour des gens qui ne se connaissent encore.
Un outil visuel.
Visuel, parce que la chose la plus intéressante est qu'il y a une mobilisation partout dans le monde, parce qu'il y a une indignation générale, mais on a encore besoin de avoir un contenu un peu plus clair. Et nous avons pensé que le cinéma pourrait être comme le chemin pour ça.
Oui, c'est super, ça veut dire une bonne direction, une voie, en fait. Ce serait par l'image, tout simplement. Par l'image. Et en fait, vous allez faire un petit peu de promo, on la fera encore plus tard, parce que ce soir, ici même dans les locaux de Carrefour Rue, au Code Bar, à 20h, il va y avoir Le sel de la terre de Herbert Biberman. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce cinéaste ?
Oui, c'est un film qu'on doit voir pour connaître l'histoire du cinéma et surtout comment le monopole du cinéma de Hollywood était créé. Et c'est un film qui a des techniques révolutionnaires parce qu'il montre une réalité dans la perspective qui n'est pas souvent utilisée. C'est la perspective que personne ne veut montrer parce que c'est la perspective et il y a aussi toujours une narratrice et c'est la perspective d'une femme et c'est la perspective d'une femme mexicaine qui est la femme de qui vit dans un village.
Mm-hmm. Silver City, c'est ça?
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Et tous les gens qui vivent dans les villages, ils sont la seule fonction de travailler pour la mine qui est contrôlée par des personnes qui vivent aux États-Unis, mais au nord. Et il a donné la visibilité pour voir qu'il existe aussi des personnes qui doivent lutter tous les jours, que la routine est une routine de lutter et qui est invisibilisée, mais pour une raison concrète, qui c'est la raison de protéger le profit du pouvoir. Et on voit toujours que tous les cinémas avaient l'idée de protéger les intérêts du pouvoir. Et
pas montrer la réalité de...
C'est ça, mais pour la protéger, c'était l'utile de faire impossible que le monde ait en conscience de l'injustice.
Ah.
Il ne faut pas oublier que le cinéaste Herbert Biberman a adhéré du Parti communiste, fait partie des 10 Hollywoodiens d'Hollywood, en fait, mise sur la liste noire, Blacklist, en 1947, en plein Marcarte. Suite à leur passage devant HUAC, la Commission des activités américaines. Et pourquoi il y a eu une blacklist ? Pourquoi il y a eu cette blacklist pour interdire ces cinéastes de produire dans les salles, c'est ça ?
Et il y a une blacklist parce
qu'il y a toujours, c'est de l'actualité ?
Non, c'est pas l'actualité, mais c'était pendant la guerre froide. Et là, on a compris, et les États-Unis ont compris que ils devaient aussi contrôler les dissidents dans son pays, parce que il avait une possibilité d'avoir une révolution plus mondiale. Et les premiers endroits qui devaient être contrôlés contre cette révolution devaient être les États-Unis. Et ils ont vu que les artistes pourraient être la première manière de donner ces consciences perdues au peuple. Et c'est pour ça qu'ils ont pensé que la meilleure méthode pour faire impossible l'art, c'était d'avoir une liste noire. Et c'était plus facile pour l'administration de voir qui était l'artiste dangereux. Mm-hmm. Mais c'était aussi une technique pour la population pour faire une démonisation de quelques personnes et créer une culture nouvelle. De la peur et du conformisme total. Et alors, et c'est super intéressant parce que ce film nous montre comment ça veut dire de tourner un film quand on est cherché par les FBI, et c'est nous avons trouvé dans le groupe Cinépériphérie que c'était une idée très intéressante parce que dans ces contextes, on voit par exemple qu'il y a un festival et dans le festival, il y a des réalisateurs et des réalisatrices, mais la question de c'était comment de faire les tournages, ça ne vient jamais parce que c'est naturel qu'il y a des studios et il y a une protection. Mais ces films étaient tournés quand toute l'équipe était en cherche et avec la menace d'aller en prison.
Ah oui, c'était quelque chose de très dangereux presque,
oui.
pour tourner le film.
Oui, et après il y avait aussi un boycott par les salles de cinéma.
Ah, en plus.
Oui, en plus, oui. Ouais, il me semble. Ouais.
Est-ce que ça a duré combien de temps sur l'idée de tournage ça...
Je ne sais pas concrètement, mais ça, aussi l'organisation du temps et
oui,
la planification,
ouais.
C'était dépendante de la persécution. Et il devait changer de localisation.
Justement.
Pour je crois que les dernières scènes étaient tournées à Mexique et pas aux États-Unis pour être plus protégées.
Ah oui, parce qu'ils étaient vraiment persécutés tout le temps. Quoi,
oui, c'est ça. Ouais, et alors, c'était aussi une persécution pendant le tournage.
Le tournage et le boycott après.
Et le boycott après. Et c'est super important de dire qu'il y avait un boycott parce que le film a survécu par une protection de l'agent intéressé et des cinéphiles avec une motivation politique.
Donc, depuis combien de temps est-ce que ce film a été vraiment divulgué, si on peut dire comme ça?
Je crois toujours, parce que ça parlait pendant les années 50, au début des années 50, du féminisme, de la lutte des classes.
Mm-hmm.
Et du racisme. Alors l'intersection, elle était très importante pendant tous les. Elle est très importante aujourd'hui.
Aujourd'hui, en plus.
Mais elle était super importante dans toutes les luttes des années 60 parce que c'était les luttes, les contenus de toutes les luttes et dans ces films.
La blacklist, elle a existé jusqu'à quand?
Je crois jusqu'à McCarthy, c'est jusqu'à le changement
du président.
Je crois que c'était comme ça.
D'accord.
Je veux pas donner de fausses. Je crois que ça a duré 10 ans, je crois. 10 ans. Ouais.
Parce qu'après, il y avait aussi d'autres techniques de censure, mais l'idée d'avoir une blacklist. C'est intéressant de
chercher.
Juste pour revenir un petit peu sur le sel de la terre, en 1954, fut le titre que Herbert Bimmerman donna à son film sur la tenue par les femmes du village d'une grève des travailleurs des mines du Nouveau-Mexique. C'est pour profiter stratégiquement d'un vide légal. La chose la plus remarquable dans le complot sont les effets de la grève des femmes à la fois pour la situation de travail des travailleurs et pour la légalité des sexes. Ça va être ça, ce film, on est bien d'accord?
Oui,
pour
c'est ça.
L'égalité des sexes.
Aujourd'hui, on va continuer. Je crois que c'est une lutte, c'est éternel cette lutte, parce que il y a toujours même en Suisse, au pays du sud, ce qu'on dit, Brésil, l'Afrique, tout, on sent que les femmes gagnent moins que les hommes.
Exactement.
Il y a
une grande fracture entre l'homme et la femme, et puis
un décalage
complètement, ouais.
N'est-ce pas? Donc c'est très remarquable d'évoquer ce sujet. Bravo.
Oui, merci.
Moi, j'ai une expérience personnelle. J'ai connu... j'avais quelqu'un de très proche de moi ici en Suisse qui était directeur d'une boîte. Et monsieur disait qu'au bout d'un moment, il cherchait quelqu'un comme commercial. Mm-hmm. Et en regardant le CV, il disait « Non, je ne veux pas de femme. » Mais pourquoi? Ah, déjà, les femmes, ils ont les règles. Donc, il y a des sortes d'humour. les femmes, elles ont des enfants. Donc, il y aura plus d'absence. Parce que les enfants, ça donne des problèmes. Les mecs, non, c'est plus simple de travailler avec les mecs. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de règles. J'ai dit, mais c'est juste méchant, quoi.
Oui.
C'est juste moche. Et vraiment, il n'a pas engagé une femme, il a engagé un mec.
Oui, ma question, et je rejoins Michel, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un grand décalage par rapport à l'égalité des hommes et des femmes au travail et en général. Comme elle venait de dire, c'est vrai qu'on prend. En théorie, ça doit être l'homme doit être au même niveau que la femme. Moi, je représente comme ça. Hein. Mais dans le monde du travail, c'est vrai que une femme, elles ont les règles, elles sont enceintes. Et qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce sujet-là ?
C'est pas nous, on n'est pas handicapés non plus.
Il faut bien expliquer aux auditeurs que les femmes sont pas handicapées. C'est que tout simplement, donnent la vie, elles ont certaines choses que les hommes n'ont pas. Et moi, je suis contre ce sexisme complet. Je suis contre ce sexisme. Je suis pour le droit de l'égalité de la femme. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus par rapport à toi, ce que tu en penses sur ces multinationales ou sur ces patrons qui disent non, je ne veux pas une femme à ce poste et pourtant qu'elle pourrait faire exactement la même chose qu'un homme. Voilà.
Je crois que c'est une fantaisie qu'on trouve depuis presque toujours. Cette idée de vouloir faire une différence entre le monde du travail et les femmes. Et ça, c'est une mentire totale, parce que la femme a été toujours, elle a fait partie du monde du travail. Le monde du travail classique, industriel, et aussi le monde du travail travaux qu'on doit faire à la maison. Ça, c'est aussi un travail. La
Bien
femme
sûr.
Est active toujours.
Mm-hmm. Plus que les hommes.
Et l'idée est de faire une grève justement pour ça, pour montrer que si les femmes, l'effet qu'il peut avoir, qu'il a,
si les femmes ne sont pas là.
C'est ça. Le fait que la femme ne travaille pas. Et c'est ça. Et après, un peu plus clairement les contenus et de dire on veut faire en même temps trois choses, dire que nous sommes toujours là, que nous faisons les mêmes travail, que notre travail a le même effet,
c'est exactement
pratique et c'est la même utilité, et c'est pour ça que c'est une injustice totale et une chose qui a une idéologie. Et le fait de payer aux femmes moins, que le fait d'avoir une pauvreté féminisée, mm-hmm. ça c'est une chose idéologique, et c'est une chose, c'est du patriarcat total.
Mm-hmm. Continue.
Aussi après l'idée de faire utiliser une grève pour expliquer que ce système patriarcal a aussi une base capitaliste.
D'accord.
Et dire qu'on doit lutter contre les deux mêmes choses en même temps. Et puis aussi l'idée de dire que les travaux qui font les femmes sont le même travail, qu'il y a la même importance d'éduquer les enfants et faire être avec des gens plus âgés, ça a la même importance que les travaux de production. Ça veut dire que le travail de la reproduction a la même importance que le travail de la production. Et aussi, l'idée que nous avons, Fine Periferia voulait commencer par cette idée pour faire un siècle sur la question, si nous sommes dans le contexte de la politisation, pourquoi il y a des assemblées partout, des groupes politiques partout, des nouveaux discours, des nouveaux groupes par Facebook, nouvelles techniques dans les réseaux sociaux, mais encore, il n'y a pas de femmes, ou les femmes qui font partie de la politique ont un rôle secondaire, même de la politique alternative nouvelle. Mmh. Et la question de Fine Periferia est de se demander pourquoi est-ce que ça c'est comme ça, et si c'est vrai que la femme a un rôle secondaire, ou est-ce qu'on peut dire que ça c'est seulement une manière de le dire mais qui n'est pas très vrai. Mais l'idée de Fine Periferia est pourquoi est-ce que nous avons utilisé ce nom, et de dire même si la femme est opprimée ou même si le migrants sont opprimés et les migrantes, ils sont toujours la force de faire une résistance.
Donc, tu as voulu utiliser le mot périphérie comme une espèce de ghetto?
Non, l'idée, c'est de...
Ou de minoriser, ou plutôt la minorité.
C'était périphérie parce que la périphérie est une chose universelle. On a toujours c'est égal géographiquement où est-ce que nous sommes. Il y a toujours une périphérie.
La périphérie, oui, c'est l'exclusion, en fait.
C'est l'exclusion, oui. Mais après, notre idée, c'était aussi de dire, mais la périphérie, ça existe parce qu'il y a un centre.
Ah,
alors,
ouais.
Ce n'est pas quelque chose qui s'est créé d'une manière propre. Et la création est toujours une différence avec une chose qui était déjà là. Et notre idée est de dire, bon, nous avons notre identité, la périphérie, mais c'est seulement une identité de lutte. Et c'est ça que nous utilisons pour dire, bon, nous comme femmes, nous sommes opprimées, mais même si nous sommes opprimées, nous avons la force pour résister contre ça et pour nous organiser, même si les hommes nous disent que nous ne sommes pas capables de faire la politique. Ou d'être au pouvoir, c'est aussi un peu l'idée de lutter contre le pouvoir, d'être le contre-pouvoir. Nous sommes contre l'idée d'avoir un pouvoir.
Contre les machos, en fait.
Oui,
contre les machistes.
Oui, aussi, mais plus en général. Nous sommes à l'encontre de plusieurs choses, mais en même temps, nous savons que nous avons le besoin de lutter contre le pouvoir, parfois avec le même instrument. Et pour le cinéma, ça veut dire que, mais avec un autre sens dans l'utilisation des instruments. Et pour le cinéma, ça veut dire que nous voulons montrer un cinéma réaliste, mais qui, par exemple, nous montre la violence, mais elle ne la reproduit pas. Elle la montre d'une manière critique.
Qu'est-ce que tu en penses ?
Qu'est-ce
que tu dis par rapport quand on dit un homme, quand il demande une augmentation, veut faire une carrière, et quand une femme demande une augmentation, est une emmerdeuse ?
Ah, quelle horreur !
C'est ce qu'on dit. Qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ça ? Parce que c'est la réalité des choses.
Non !
Eh oui. Un homme qui demande une augmentation, ça veut dire que c'est un homme qui veut promouvoir, qui veut avoir une carrière. Et une femme qui demande, qui n'ose pas, et ou bien qui demande une augmentation, c'est une emmerdeuse.
Oui.
Qu'est-ce que tu peux en dire un
c'est
petit peu sur ça ?
C'est triste comme point de vue.
C'est triste, mais c'est la réalité des choses.
Oui, et je trouve que ça nous montre que la femme fait des choses pour le collectif de femmes. Et elle soit qu'elle a besoin d'une augmentation parce que pour elle, ce n'est pas une augmentation. Pour elle, c'est d'avoir une augmentation pour être au même niveau, avec le même salaire qu'un homme. Alors, c'est une lutte du collectif des femmes et elle sait qu'elle n'a pas le même salaire parce que seulement pour être femme. Et qu'elle doit être avec les enfants et faire tous les travaux typiques de la maison,
ouais.
Et même faire le double,
ouais, ouais.
Du travail.
C'est double journée.
Double journée seulement pour le fait qu'elle est une femme.
Femme, ouais.
Mais si un homme veut une augmentation, c'est une lutte plutôt personnelle.
Ah.
Oui, oui, d'accord. Et juste avant une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu penses au droit de congé paternel, ouais, pour les hommes et aussi pour les femmes, mais plus, oui. Pour les hommes, qu'est-ce que tu en penses?
Je crois que ça, c'est déjà une victoire de la lutte féministe.
On est bien d'accord.
Oui.
Oui, oui, bien sûr. Parce que les hommes ont aussi le droit de garder ses enfants,
oui.
Et puis que la femme aille au travail sans être macho, on est bien d'accord.
Bien sûr, mais après, je crois que... Et ça, c'est un peu triste, mais je crois qu'on doit forcer aux hommes à l'apprendre. Parce que je crois que si c'est volontaire, la majorité, ça va être une loi, mais qui n'aura pas un impact.
Ben, en tout cas, moi, ce que je sais un petit peu, c'est qu'il va y avoir une initiative ou une loi, je crois, sans dire de conneries, par rapport à ce congé paternité, oui. Qui sera de 19 semaines. Parce qu'en fait, c'est la loi qui est en vigueur, que c'est 19 semaines. Ils veulent la mettre aussi pour les hommes. Alors,
la même chose pour les deux ?
Pour les deux. deux. Ce serait en, c'est en pourparlers, voilà. Et on va revenir un petit peu plus tard. On va écouter une petite chanson que tu nous as apportée. Hein. Tu peux nous le dire, le titre, parce que moi, je suis très, très nul en anglais.
C'est une chanson que Nina Simone a fait connue. Et c'est « I got no... »
Good life.
Des choses importantes pour la vie petite bourgeoise, on peut le dire comme ça, ou plus en général le privilège ou le valoir plus économique. Mm-hmm. Mais je sais que je suis femme et je sais que ça a déjà un valoir que la normalité du monde ne le voit pas.
C'est pour ça que tu as choisi cette chanson.
Oui, mais ouais. Je crois que c'est une version qui vient plus tard, mais c'est parfait.
Mais
il y a plusieurs versions.
Il y a plusieurs versions, ouais, oui, d'accord. Oui, oui. On va écouter, on revient tout
à l'heure. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Jolie chanson.
J'adore.
Voilà. Bravo. De retour, Radio s'enchaîne, comme tous les jeudis, avec Patrice en live. Et autour de la table, Michel
et
Anna, pour nous parler de la grève mondiale féministe et qui nous va projeter ce soir au Code Barre, à Carrefour Rue. rue Beaulacre.
Numéro 10.
10, 1202 Genève. Merci Michel. qui va nous parler de...
Le film
Le Ciel de la Terre. Tu voulais lui poser une question.
Oui, justement, Anna, tu nous as évoqué tout à l'heure l'organisation de la mondiale d'une grève, de la grève aujourd'hui. Oui. Comment ça se déroule? Quel pays? Qu'est-ce que tu peux nous raconter de ça?
Je crois là il y a deux points importants. Un point important, c'est de voir dans chaque pays pourquoi est-ce qu'elles sont organisées en 2018, la grève, et qu'est-ce qu'elle a fait être très fort en 2018. Et l'autre question est comment est-ce qu'on peut unifier de quelque manière toutes les grèves qu'il y a organisées ou toutes les mobilisations, parce qu'il y a aussi des pays où il n'y a pas une grève, mais il y a une mobilisation très forte ou des activités. Alors l'idée, c'est de comment l'unifier, parce que c'est une organisation très décentralisée, parce qu'il y a beaucoup de collectifs différents. Mmh. Il y a beaucoup d'idéologies dans le féminisme différents qui l'ont organisée. Et il y a aussi beaucoup de collectifs différents.
Donc ils utilisent Facebook, des trucs comme ça, des réseaux sociaux.
Il y avait un groupe français qui avait l'idée d'utiliser un site en Facebook pour publier dans les mêmes endroits de matériel différent et montrer les idées différentes qu'il y a eu. Et aussi comme quel est le sujet de la mobilisation, quel est le numéro des femmes qui sont mobilisées, qu'est-ce que les hommes ils font et pourquoi, avec quelles raisons, s'ils veulent faire la grève ou ils ne veulent pas. Et pourquoi? S'ils pensent que c'est plus important pour l'idée de la grève et que les hommes se solidarisent ou pas, si ça a un effet plus important de montrer le fait de la grève, s'il y a seulement des femmes qui se mobilisent ou pas. Alors c'est un peu la question des hommes dans les pays différents. Et aussi le contenu des activités, s'il montre quelque chose dans le cinéma ou si elle veut changer le contenu qu'il y a dans Wikipédia sur les biographies des femmes importantes. Mm-hmm. Et oui, ce sont des exemples comme ça. Et après, pour la première partie, je crois que c'est important ça, de dire pourquoi est-ce qu'il y a une mobilisation en 2018. Je crois que c'est en général parce qu'à 2017, il y avait déjà une idée de faire une grève en même temps qu'un ménage et une mobilisation féministe.
D'accord.
Et ça avait un contenu ça a commencé en Argentine c'était très fort en Argentine et en Pologne. Uh-huh. Et en Argentine et en Pologne, il y avait
des contextes différents, pareil.
Différents, oui, c'est ça. En Argentine, l'idée, c'est la lutte de ni una menos, vivas nos queremos. Et uh-huh. C'est une idée de faire une grève féministe pour lutter contre le fait qu'il y a des hommes qui tuent des femmes seulement pour le fait qu'ils soient des femmes.
Oui, exact.
Et en Pologne, c'était une grève pour utiliser la forme de la grève pour lutter contre la prohibition presque totale de l'avortement. Mm-hmm. Alors, il y avait un an, et je connais plutôt l'exemple de l'Espagne. L'idée en Espagne, c'était d'organiser... Il y avait beaucoup de femmes qui ont fait déjà en 2017 la grève en Espagne. Mais l'idée, c'était d'utiliser un an pour organiser une commission féministe. Alors, c'était une organisation du peuple au pouvoir. C'était pas de haut en bas, c'était de bas à non. Alors, très assemblée. Et l'idée, c'était d'avoir une chose organisée par des femmes féministes. C'était une commission. Et elle était en train de faire une activité, de prendre une conscience pendant toute l'année. Et déjà, il y a 3 semaines ou quelque chose comme ça, ils ont eu les supports des 3 syndicats les plus importants. Et les syndicats ont inscrit la grève. Alors, c'est possible pour toutes les femmes de faire la grève en Espagne. Et dans d'autres pays comme l'Uruguay, on sait que la quatre parties de Montevideo, de la capitale, va faire la grève. Et je crois pour ça qu'aujourd'hui, c'est un jour de célébration totale pour la lutte féministe. Et ça peut être... aujourd'hui, c'est une date historique, le 3 mars 2018.
J'entends beaucoup dans ton discours qu'il y a beaucoup plus de lutte sur le féminisme et, en Amérique latine. C'est ma question, parce que je m'excuse, j'ai un petit peu, j'y connais pas trop sur le féminisme et sur tout ce qui se passe autour de ça. Alors, ma question est, pourquoi, j'ai entendu dans ton discours, tu parles beaucoup de l'Amérique latine. Parce qu'il y a beaucoup plus de pauvreté. Est-ce que,
je pense, peut-être. Je ne sais pas si nous sommes plus activistes dans ce sens-là.
Peut-être, oui.
Je ne suis pas sûre. C'est Anna qui peut nous dire. Mais ce que je ressens en tant que brésilienne, c'est que nous avons là beaucoup plus de difficultés aux informations que les femmes en Europe.
Oui.
Chez moi, en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui ont étudié, évidemment, ça, c'est pas, mais l'accès à la culture, à l'éducation, ça reste encore un problème.
Un gros problème.
Ah oui, ça reste. Ouais. Donc,
C'est beaucoup fermé aux femmes, alors. C'est beaucoup fermé aux femmes.
Oui, parce que les femmes, finalement, elles doivent rester à la maison. Elles tombent enceintes jeunes déjà au Brésil. Donc, finalement, elles arrivent à 20 ans. Il y a beaucoup qui arrivent à 20 ans. Elles ont déjà 2-3 enfants. Donc, elles finissent pour rester enfermées, en train de faire manger. Ils n'ont pas cette possibilité, ils n'ont pas cette conscience, cette culture, cette éducation que les femmes en Europe, elles ont.
Oui.
Donc, je crois que nous avons... là, on commence vraiment à nous mouvoir. Je ne sais pas, ces dernières 20 ans, on a commencé vraiment à sortir de cette boule.
Il
commençait vraiment à être quelqu'un d'actif dans la société, pas seulement la bonne femme qui reste là, qui ne veut plus étudier. On a commencé à sortir de ce conformisme, comme on nous a parlé. Je vois que ma génération, déjà, j'ai 43 ans.
Ça se voit pas.
Merci beaucoup. Le Botox, vous remercie. C'est pas vrai. Déjà, ma génération, ça change complètement de la génération de ma mère et de ma grand-mère. On sort de ce conformisme. Donc, c'est normal qu'on soit plus active. Ici, je crois que les femmes, elles ont été déjà éduquées depuis plus longtemps. Les femmes de 60 ans, elles ont... La plupart sont allées à l'université, je pense, ici en Europe.
C'est vrai qu'ici, en Suisse, la génération de mes parents, mes grands-parents... Et mes arrière-grands-parents encore, à partir peut-être mes arrière-grands-parents, là, il y avait plus la femme restait à la maison et l'homme allait au travail. À partir de mes grands-parents, là, c'était peut-être un peu plus ouvert. Et comme disait, mais ça, c'est, je crois que c'est une grosse, grosse bêtise, que les... je sais plus qui exactement disait ça. Le droit à la femme, en fait, c'était l'ouverture à la femme, c'était oh mince, j'ai un blanc, je m'excuse. Je reviendrai là-dessus. Je voulais juste dire que l'histoire un petit peu de cette journée est issue de l'histoire de la lutte féministe menée sur les continents européens et américains le 28 février 1909, une journée nationale de la femme, National Woman Day, est célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique. À la suite d'une proposition de Clara Zetkin, que je ne sais pas si je pense que peut-être que tu dois connaître. En août 1910, l'Internationale socialiste des femmes célébrèrent le 19 mars 1911 la première journée internationale des femmes et revendiquent le droit de vote des femmes, le droit au travail et à la fin des discriminations au travail. Depuis, des rassemblements et manifestations ont lieu tous les ans.
Oui, je trouve cette question de se demander s'il y a des différences dans la mobilisation au niveau international. Uh-huh. Une chose très intéressante, mais je crois que la question est tellement ouverte. Je crois que la lutte est internationale, mm-hmm, et qu'il y a des différences dans des pays, bien sûr. Mais je crois que c'est... Je crois que l'autocritique des femmes est toujours dans chaque pays, parce qu'il y a aussi en Espagne, il y a des femmes qui... Nous voyons les femmes de l'Amérique latine, surtout dans la lutte anticoloniale et anti-impérialiste, comme un symbole pour nous, ah, et un rôle que nous pouvons suivre. Et je crois que c'est important de dire... On peut voir qu'il n'y a pas de différence internationale très forte si on voit avec dans quelle année les femmes pouvaient voter dans des pays. Et souvent, on voit que les pays européens, qui on croit souvent qu'ils sont plus féministes que l'autre, là, les femmes pouvaient voter plus tard que dans d'autres pays du monde.
Ouais, c'est... Moi, j'étais choquée qu'en Suisse, c'était tard quand même.
Oui, alors là, je viendrai sur la Suisse un petit peu plus tard. Là, j'ai juste une petite phrase à dire. Ce n'est qu'en 1977 que les Nations Unies officialisent la journée invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes. La journée internationale pour les droits des femmes fait ainsi partie des 87 journées internationales reconnues et ou introduites par l'ONU. C'est une journée de manifestation à travers le monde. C'est quand même tard.
Tard, hein ?
Mais quand même, c'est quand même très tard.
Oui, oui, mais
1977.
Mais il y avait déjà quelque chose. Je crois que ça, c'est génial que déjà quand cette idée d'avoir une journée des femmes a commencé, c'était déjà une journée internationale. Avant la mobilisation de Clara Zetkin, parce qu'elle avait déjà cette idée de dire il y a des femmes toujours partout dans le monde, alors c'est déjà une chose qui n'est pas internationale, c'est une chose, c'est des femmes, c'est global,
ouais,
c'est,
oui, oui,
n'importe quel pays est-ce que tu viens. Et c'est pour ça que nous pouvons abandonner cette mentalité des frontières et utiliser le symbole. Et la mobilisation de 1900, quelle année?
1977.
Mais c'était un année plus tard que la, parce que en 1977,
les Nations Unies officialisent la journée invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes.
Oui, mais la première convocatoire, c'était en
1909.
Oui, parce qu'en 1905, je crois, on peut le voir plus tard ou on le rechercher. C'est l'idée de faire les journées aujourd'hui, c'est une commémoration des femmes qui étaient tuées par le chef, le propriétaire d'une usine qui s'appelait le Cotton à New York.
Qui a pris feu, non?
Il a pris feu. Alors, il a tué tous les travailleurs, les travailleuses qui étaient dans l'usine, ouais, qui voulaient...
Le film, il est terrible. J'ai vu ce film.
C'était... Mais ça, c'est... Déjà là, l'idée de faire une grève féministe a commencé.
Oui, exact.
Parce qu'elle s'était tuée exactement pour faire une grève. Alors aujourd'hui, c'est les jours, c'est comme le fin du cercle. Parce que là, on a compris que si on lutte comme femme pour nos droits comme travailleuses, on fait deux choses en même temps. Une chose, c'est lutter pour notre corps. Parce que il y a des hommes qui nous tuent, ou il y a des violences contre les femmes seulement parce que nous sommes des femmes.
Juste.
Et en même temps, il y a une inégalité dans le travail. C'est une inégalité fondée par le capitalisme.
Excuse, Patrice.
Vas-y.
Juste, toi, t'es quand même étudieuse sur le sujet de féminisme.
Ça m'intéresse beaucoup. Pour moi, c'est joli parce que c'est comme une façon de trouver une libération en groupe.
C'est chouette.
Oui,
oui, hein.
C'est ça.
Et je te demande ça parce que est-ce que tu peux parler quelque chose par rapport aux femmes dans le Moyen-Orient, au Afghanistan? J'ai lu qu'aujourd'hui il y aura un débat organisé par l'Amnesty International qui va parler des femmes en Afghanistan. Et je vois pas de. Est-ce que je sais pas si s'il y a une perspective d'amélioration de leurs conditions là-bas. Qu'est-ce que tu as quelques contacts avec cet univers là?
C'est vrai que là-bas, en Afghanistan, c'est très, très, très difficile.
Être femme là-bas.
D'être femme là-bas. Oui. Alors, est-ce que tu. La question de Michel, est-ce que tu as un petit peu un petit sujet ou est-ce que tu es un petit.
Curieuse.
Je suis tellement curieuse. Tellement. Oui.
Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça?
Je suis vraiment intéressée. Mais une chose qui m'inquiète beaucoup, c'est cette question. Si le féminisme est possible d'exister dans un contexte de religion extrême.
Mm-hmm. Oui.
Et je ne crois pas, mais je suis intéressée de voir qu'est-ce que les femmes afghanes disent sur ces sujets.
Oui, même en Iran, il y a des pays super fermés qui.
Oui.
On ne sait pas comment les femmes elles arrivent à s'y mobiliser, en tout cas.
Oui.
Ça doit être un effort.
C'est ça, oui. Mais c'est génial parce que le deuxième film de Cine Periferia sera La pierre de la patience, qui est le film basé sur un livre, un roman d'un écrivain afghan.
Ah, oui. Excellent. Mm-hmm. Je voulais rebondir. Et c'est une fois par semaine, le Cine Periferia.
Oui.
Et à chaque fois, ici, au Côte Bar.
C'est ça, au Côte Bar, chaque jeudi à 20h.
D'accord, oui, c'est bien à préciser.
Ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps?
Plus ou moins jusqu'à 11h, ou un peu
non,
moins.
Mais combien de...
Non, mais combien de jours, combien de semaines, combien de mois, combien d'années?
Nous avons prévu 2 siècles, alors jusqu'à l'été.
Jusqu'en été.
Oui.
Ah, c'est bien. Donc,
alors, on invite tout le monde à venir le jeudi au Code Barre à partir de 20h jusqu'à 23h pour voir toutes ces séquences et toutes ces parties. Ouais, 1, 2, 3, 4.
On va essayer de mettre online l'agenda.
On mettra
l'agenda. Online,
voilà, on mettra l'agenda. Parfait. Et on fera tout ça sur le podcast et aussi nos réseaux sociaux de la radio s'enchaîne. Tout par rapport à ça. Hein. On mettra des liens pour que les gens soient informés.
C'est bien de préciser que c'est gratuit.
Oui, c'est gratuit, exactement. Vous pouvez aussi à la boisson, vous pouvez donner quelque chose ou pas donner. Et c'est vraiment un lieu très, très agréable et convivial. Ça, c'est sûr.
Ouais.
J'y suis allé plusieurs fois.
Ah oui?
Bien, bah oui, quand même. On est quand même dans la maison de la Carrefour. si personne n'est allé en tant que journaliste... Alors,
je vais me faire virer alors.
Ah, tu vas te faire virer.
Eh bien, dis donc, j'y serai ce soir.
J'y suis allé quand même 2-3 fois. Et on est en 2018 et ça a commencé en 1909. Le 8 mars 2019, ça fera 100 ans.
Oui.
Alors, est-ce que vous avez déjà pensé à quelque chose par rapport à ces 100 ans?
Je crois que c'est mieux d'aujourd'hui vivre les jours et voir comme ça se finit et l'impact qu'il a aujourd'hui. Et après, on doit déjà commencer à organiser quelque chose pour l'année prochaine.
Donc, tu crois qu'il y a l'impact, les gens seront, la grève va atteindre vraiment les États-Unis, des grandes métropoles
Oui, je crois.
Tu n'es pas sûr?
Non, je suis tellement sûre que ça sera un boom partout. Oui.
Ouais,
aussi à Genève, avec le soleil et tout.
En plus, aujourd'hui, il fait un grand beau dans les studios et tu nous as amené le soleil, Anna, en tout cas, aujourd'hui.
Le soleil est venu avec moi. Non, mais c'est génial parce que c'est aussi une grève contre la consommation. Alors, on peut profiter du soleil qui est toujours là.
C'est exact. C'est
bien.
On va faire une petite pause musicale et puis on va revenir à finir parce qu'on a bientôt 7 minutes.
Exactement. Hein,
on peut dépasser, on est bien sûr, il n'y a aucun problème ici à la radio s'enchaîne. Tu nous as choisi Décollage de Loulou. Comment?
Pourquoi as-tu choisi cette
chanson?
C'est un feat de. Je ne connais pas cette chanson dans cette version, mais c'est d'un groupe. Bon, j'ai choisi le... Je crois que c'est dans un groupe indépendant, mais je l'ai choisi parce que ça me fait penser à le cherche de la périphérie, de la périphérie. Hein, le, uh-huh. Aller chaque jeudi à un endroit pour pouvoir parler d'un cinéma qui est... un peu comme démonisé ou pas très facile à trouver.
D'accord. Bien. Bien, alors on va passer cette belle musique pour nos auditeurs et on va revenir tout de suite après. Retour,
magnifique morceau, Anna.
Ouais, magnifique morceau. Merci, hein, merci pour nous faire partager ces fabuleux morceaux. Chaque invité nous apporte leur morceau et ouais. on découvre beaucoup de choses
ouais,
et de diversité complète. Nous sommes à la radio sans chaîne pour parler de la grève féministe mondiale. Avec Anna et pour parler aussi du film qui va être diffusé ce soir au Code Bar à la rue Bollacre numéro
10
1202 Genève Le sel de la terre avec de Herbert Biberman. C'est ça parle d'une femme de mineur qui évoque les jours douloureux vécus un moment de grève déclenchée pour obtenir un habitat meilleur et les mesures de sécurité. Voilà.
Tu avais une entrée gratuite. Hein.
Et entrée gratuite. Tu avais une question pour Anna.
Et justement. Ah non, mais toi, arrête, toi. Tu es en train de tricher. Tu voulais parler de la Suisse. Qu'est-ce que tu voulais dire?
C'est ça ici, la radio s'enchaîne, c'est qu'on ne perd pas le fil, hein, on ne perd pas le fil. Alors je voulais juste venir un petit peu sur l'introduction en Suisse. Le suffrage féminin en Suisse est introduit au niveau fédéral après la votation du 7 février 1971. La principale raison de ce retard de la Suisse sur les autres pays européens est l'importance de la démocratie directe dans les systèmes politiques. L'introduction du suffrage universel au niveau fédéral et cantonal nécessite en effet le vote de la majorité des électeurs, en l'occurrence masculins, par référendum. Au niveau cantonal, c'est dès les années 1960 que les 8 premiers cantons introduisent le suffrage féminin. En 1959, pour Neuchâtel et Vaud. Et le dernier, le canton d'Appenzell, Rhône-Intérieure, l'introduit à la suite d'une décision du tribunal fédéral en 1991. C'est quand même hallucinant. Voilà.
C'est tard.
Nous sommes vraiment des arriérés en Suisse. Je suis désolé de le dire, mais sur le féminisme, nous sommes vraiment en retard. Aussi, comme dans d'autres pays. Mais nous, vraiment, les Suisses, on pourrait, mais vraiment, c'est incroyable. On pourrait parler de plein de choses, hein, ici en Suisse et à Genève, hein, sur le féminisme et sur d'autres choses. Mais revenons sur la question que tu voulais poser à Anna, Michel.
Non, c'est juste pour rebondir sur le cinéma périphérie qui m'intéresse toujours. Pour les conférences, pendant la pause, c'est juste pour préciser aux auditeurs et auditrices qui fera le débat. Par exemple, aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Robert était en train de nous dire, David, je veux dire.
Nous allons essayer de avoir comme inviter quelqu'un qui peut nous faire une introduction sur la problématique pour avoir un peu plus d'informations. Mais aujourd'hui, l'idée est d'organiser, comme David a dit pendant la pause,
David Albert, voilà.
Est d'organiser une séance de débat ouverte à toutes les personnes qui sont intéressées, sans avoir un débat de base.
D'accord, ok.
Mais avec une importance et un accent plus clair pour les femmes, sur les.
Bien sûr, évidemment.
Le protagonisme des femmes.
Des femmes. Oui. Donc, et pour la semaine, donc encore, pour la semaine prochaine, c'est l'histoire de. C'est un film afghan.
Afghan, c'est Afghan. Ça. Mais on continue avec la thématique du féminisme.
Ah, d'accord.
Et plus concrètement, parce que c'est une séance sur la question de. Pourquoi ? Quel est encore aujourd'hui le rôle secondaire des femmes et pourquoi ?
Mm-hmm.
Quelles sont les raisons ? Et dans ces siècles, avec ces thématiques, nous avons l'idée de la partager en deux. La première partie, ça a la fonction de présenter les différentes formes et contenus d'oppression contre les femmes. Aujourd'hui, ça sera la salle de la terre, l'idée de le travail de la femme.
D'accord.
Et la semaine prochaine, ça sera l'idée de le lien entre la religion et le rôle de la femme. Et on continuera avec ces premières parties du siècle, parce que prochain mois, on aura le siècle ou la partie du 16e siècle, et la deuxième partie aura le contenu de nous dire même si les femmes sont opprimées, elles sont capables de lutter contre cette oppression et d'être elles qui organisent et qui réalisent le contenu de la lutte.
Donc les premières 3-4 films que vous proposez sont tous liés au féminisme?
Oui.
D'accord.
Ou même 8.
Ah, d'accord. Oui. Ah oui, c'est d'accord, ça. C'est bien précis là.
4 pour l'oppression et 4 pour les luttes.
Ah, voilà.
Oui, c'est ça.
Il y a tout ton pourquoi de pourquoi. Hein.
Exactement, oui.
Il y a toute une raison d'être là.
Voilà, exactement.
Donc, oui. C'était tout. Merci beaucoup.
Oh, merci à vous.
On est très loin de la parité au pouvoir.
Oui.
Alors, on est bien d'accord, on est très très loin de cette parité au pouvoir. Et moi, je voudrais terminer déjà cette émission sur tes prochaines activités, à part le film. Est-ce que tu as des activités personnelles ou autres, ou d'autres actions que de toute façon on mettra aussi, si tu es bien d'accord, sur le podcast de la Radio Sans Chaîne, sur notre site de la Radio Sans Chaîne. Et j'invite aussi, je t'invite et j'invite tous tes amis à liker la page de la radio s'enchaîne sur la page J'aime de Facebook, parce que plus on a de likes, plus on est visible et plus on peut donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, comme toi aujourd'hui, grâce à David Alberola qui nous a suggéré et même qu'on nous a, ouais, on a pris ce sujet-là parce que ça nous touche réellement. Est-ce que tu as des activités personnelles?
Oui, j'aimerais, et c'est personnel, mais ça peut être aussi avec...
Avec d'autres groupes. Hein.
Avec un groupe, oui, de faire un film.
Ah, le gars, cool. Voilà.
C'est ça, de pouvoir faire une... Oui, d'avoir un résultat un peu plus concret de ces séances de, où on partage et on fait un mélange de la lutte politique et de la lutte artistique.
En fait, si c'est pour faire un petit résumé, ce serait tout ce que tu vas entreprendre avec ce cinéma, hein, ces films. Après tout ça, tu vas essayer de faire prendre, écouter tout le monde, les retours que tu vas avoir, et tu as l'idée de produire un film par rapport à tout ça.
Oui, j'aimerais en gros, faire ça.
Oui.
Ça, c'est l'idée. Oui.
C'est l'idée. Ce serait la finalité de ce projet.
Peut-être la finalité personnelle.
Personnelle.
Voilà. Bah, bravo.
Ou la finalité plus d'un avenir.
D'un avenir, ouais.
Un peu plus.
Ouais. En tout cas, pour une première
émission radio,
franchement, t'as le sourire jusqu'aux oreilles avec les yeux qui pétillent.
Vous aussi, hein,
mais nous, on est toujours comme ça. Ça nous fait grand plaisir à chaque fois qu'on reçoit des invités qui, en plus, c'est une première pour eux. Et même, si c'est pas une première, qui repartent avec un visage pour dire aux auditeurs
pétillante.
Oh, franchement, été vraiment à la hauteur pour une première.
Bravo.
Ah, parce que pour nous aussi, ça n'a pas été facile les premières. Hein.
Ouais.
Alors, et est-ce que
c'est le sujet.
Ouais,
non, mais tu t'as très bien parlé.
Très bien parlé.
Je crois qu'il y en a. Les gens ont pu voyager dans le sujet.
Exactement, avec ton petit accent en plus, ça donne de la fraîcheur et du soleil. Voilà, tout à fait. Alors, je sais pas si tu as un petit mot de la fin avant qu'on fasse le tour.
Tu veux faire un coucou à quelqu'un?
Un petit coucou à quelqu'un. Bonjour, une salutation
à toutes les femmes.
Ah oui.
Et personnel.
Personne, mais je crois qu'aujourd'hui c'est les jours des toutes.
Moi je fais un petit coucou à ma maman, qui c'est une super femme.
Voilà.
À ma maman toujours.
Voilà. Bonjour maman.
Moi aussi fais un petit coucou à ma maman qui s'appelle Bernadette, mais son surnom s'appelle Toutoune, et c'est mon papa qui lui a donné ce surnom. Et je remercie infiniment Michel pour aujourd'hui.
Hey, patache, vraiment. On est là.
Je remercie David Alberola qui est ici dans nos studios. Je remercie Sergio à la technique. Et je te remercie à toi. À toi,
et
Anna, surtout.
Remercie.
Et venez tous au Code Barre ce soir à
20h. Exactement. Ciné Périphérie.
Exactement.
Tous les jeudis.
Tous les jeudis, c'est gratuit. Rue Beaulacre.
Numéro 10.
Et 1200
de Genève.
Voilà, okay. Et on va finir sur toute première chanson, La Voix des Femmes, Parole. Et encore merci à toi, Anna. Vraiment merci. Et je souhaite une
bon
appétit, une bonne journée aux femmes.
Ciao,
et même
cacao.
Aux hommes. Et ciao, cacao.
Feliz anniversario.
Et exactement. Et bonne fête à toutes les femmes et aussi à tous les hommes.
Ciao, les collègues. Voilà.
Au revoir, et on finit sur cette belle musique. Au revoir, vous êtes sur la radio sans chaîne, et à bientôt. Au revoir.
Marchons dans la même direction, de la même façon. La tête haute, n'ayons plus peur, n'ayons plus honte. Marchons, attirons l'attention. On peut le faire en chanson.
s'écouter, qui même le fait, tout combattif, quand on arrive.